Un journal présenté par Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, comment mieux financer la dépendance? Le gouvernement va s'atteler à la question d'ici quelques mois. La ministre de la Santé lance aujourd'hui un grand débat citoyen avec au cœur de ces questions le recours délicat à la maison de retraite, une décision presque taboue dans les familles, on le verra. Nous irons aussi en Indonésie qui compte ses morts après le terrible séisme et tsunami de vendredi dernier. Le gouvernement de Jakarta vient de demander de l'aide internationale. Au menu également, le prix du fioul qui s'envole en France et l'ouverture d'un centre pour femmes toxicomanes dans Paris.
Que se passera-t-il si l'on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement de la planète? Pour la première fois, des scientifiques ont mesuré l'impact de ce dérèglement dans les années à venir. Et pas n'importe quels experts, ceux du GIEC, l'organisme de l'ONU récompensé par un prix Nobel de la paix. On en parle avec notre invité, le climatologue Hervé Le Treut, à 6h20.
France Inter.
Un sujet souvent douloureux au sein des familles, faire rentrer ou pas ses parents en maison de retraite. Comment en parler?
Oui, c'est l'un des grands chantiers du quinquennat, la question de la dépendance des personnes âgées. À l'occasion aujourd'hui de la Journée internationale des aînés, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'apprête donc à lancer une grande concertation à l'échelle nationale, invitant les professionnels du secteur mais aussi les citoyens à échanger. Pour sa part, le think tank Terra Nova publie lui ce matin une enquête sur la dépendance avec une proposition phare, faire appel à un tiers pour ouvrir le débat au sein de la famille, un débat souvent redouté. Solène Lehen.
S'il faut retenir un seul mot de cette enquête, c'est celui d'angoisse. Angoisse chez les personnes âgées qui le sentent, elles vont devoir inévitablement d'ici peu entrer en maison de retraite. L'EHPAD, pour elles, a une image négative, c'est perdre leur liberté de décision. Angoisse aussi pour les proches, les enfants en général, avec en plus de la culpabilité. Ils appréhendent une réaction négative, un refus du parent concerné. Ils disent se sentir seuls face à la décision. Résultat, dans les familles, tout le monde repousse la discussion, le sujet devient tabou, douloureux. Terra Nova propose qu'un tiers joue alors le rôle de médiateur pour débloquer la parole et l'échange. La question n'étant pas abordée plus tôt, aujourd'hui c'est souvent une chute, un accident domestique, un problème cardiovasculaire qui finit par précipiter l'entrée en maison de retraite. Entrée en urgence, loin d'être sereine, les personnes âgées disent alors le ressentir comme une contrainte. Aujourd'hui, environ 750 000 Français vivent en EHPAD. Ils y entrent de plus en plus âgés, 85, 86 ans, et dans un état de santé dégradé, bien plus dégradé qu'auparavant.
Solène Lehen. D'ici à 2050, la France comptera près de 5 millions de plus de 85 ans contre 1,5 million aujourd'hui. Comme chaque 1er octobre, quelques nouveautés sur le pouvoir d'achat à noter. D'abord du neuf sur votre feuille de paye, la fin des cotisations chômage pour les salariés jusqu'à plus de 200 euros net par an pour un smicard dans le secteur privé. L'allocation de frais de garde d'enfants va bénéficier d'un coup de pouce pour les familles monoparentales et puis une hausse également de 20 euros sur la prime d'activité versée aux travailleurs modestes. En revanche, en négatif, la hausse du prix du gaz, sixième mois consécutive, entre 1 et 3% de plus, et à venir, une légère augmentation du prix du tabac. Et au chapitre des mauvaises nouvelles, pourrait-on dire, sur le pouvoir d'achat, le prix du fioul, plus 40% depuis le début de l'année, 960 euros les 1000 litres. Résultat, malgré un début d'automne plutôt doux, c'est le rush chez les vendeurs de fioul domestique. Écoutez le reportage de Régine Godard, qui a suivi un livreur à Amfranville dans la région cannaise.
Mettre le moteur en route, dérouler le tuyau jusqu'à la cuve et la remplir en surveillant le niveau, ces gestes-là, Bruno, livreur chez Fuel Service, les répète plusieurs fois par jour.
Combien vous faites de maison par jour à peu près?
On peut en faire 25, on peut en faire 15, ça dépend. Là aujourd'hui, depuis ce matin, 22, comme ils en ont parlé sur TF1, et ben voilà, les gens appellent. C'est tous les ans pareil.
D'habitude, ça fait le yo-yo, mais là, c'est plutôt tendance à aller à la hausse tout de suite. C'est presque un euro bientôt. Hein. Alors, ils font le plat. Ouais, combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Hein.
Combien il y a à peu près?
Jamais réglé à 1000, mais bon. Allô?
Et pendant que Bruno répond au téléphone, le client, Patrick, retraité, fait ses comptes.
L'année dernière, je l'ai payé 67 centimes le litre. Et là, il est arrivé à 92 centimes. Ça fait cher. Hein. Si on a un hiver à peu près doux, ça va, mais si on a un hiver rigoureux, là, bon, j'ai la chance, j'ai encore deux cheminées, donc je chauffe au bois entre deux. Alors ça compense un petit peu.
Et encore, Patrick a de la chance. Il a passé sa commande il y a 3 semaines avant les dernières augmentations. Une nouvelle hausse importante est déjà prévue en janvier.
Le mécontentement du chef de l'État aux Antilles. Emmanuel Macron qui a passé tout le week-end à Saint-Barth et Saint-Martin, un an après l'ouragan Irma. Le chef de l'État a donc laissé éclater sa colère en voyant le retard pris par la reconstruction. À peine 35% des bâtiments reconstruits. Je demande à tous les bailleurs de réaliser les travaux d'ici le 31 décembre prochain. Si les travaux ne sont pas achevés, a-t-il dit, à cette date, le préfet pourrait enclencher une procédure pénale comme pour les marchands de sommeil. Manuel Valls, lui, part à Barcelone, là, mais la conscience tranquille. Il a dit hier soir sur les plateaux de France 2, l'ancien Premier ministre qui entame une tournée d'adieu, j'ai décidé de changer de vie. Pour moi, il n'y a pas de rupture. Barcelone, c'est le même chemin, c'est défendre les mêmes valeurs, ajoutant qu'il souhaite à Emmanuel Macron de réussir.
France Inter, il est 6h06, des centaines d'équipes de secouristes prêtes à partir pour l'Indonésie.
Des ONG, des agences humanitaires attendaient depuis la fin de la semaine dernière de pouvoir se rendre sur l'île des Célèbes, ravagée par un tsunami. Mais jusqu'ici, le gouvernement indonésien n'avait étrangement pas fait appel à l'aide internationale. C'est désormais chose faite depuis cette nuit. Les autorités de Jakarta ont donné leur feu vert face à une catastrophe qui s'annonce majeure. 832 morts recensés à ce stade, mais des centaines de corps restent piégés sous les décombres de la ville de Palu, une ville de 350 000 habitants. L'un de nos reporters a réussi à se rendre sur zone, Joël Bronner.
Palu est une ville sinistrée que les habitants qui le peuvent font tout pour fuir. De quoi créer sur les routes environnantes encore praticables un véritable sentiment d'exode. Sur place, la ville en partie vidée de ses habitants est encore à genoux, à l'image des nombreux bâtiments qui se sont écroulés sous la violence conjuguée du séisme puis du tsunami. Sur la plage, une des zones les plus durement touchées par le raz-de-marée, des objets épars, une chaussure à talons, un parapluie d'enfant, des portes, des fenêtres, des débris en tout genre, et au milieu, quelques scooters qui se frayent un chemin dans les gravats, qui jouxtent des arbres à terre et des bâtiments largement effondrés. Près de l'eau, certains habitants se tiennent un foulard sur le visage pour se protéger de l'odeur nauséabonde des lieux, une sorte de mélange de relents d'océan et de pourriture. Devant le centre de distribution de nourriture de la ville, des dizaines de personnes sont rassemblées devant le bâtiment géré par les militaires. La tension est palpable, des pillages ont notamment eu lieu la veille, et certaines personnes réunies là crient régulièrement qu'elles ont faim. Eau, nourriture, électricité, essence, il faut dire que Palu manque à présent un peu de tout. Palu, Joël Brunet, France Inter.
Une victoire en demi-teinte en Macédoine. Le oui au référendum sur le nom du pays l'emporte très largement à 90%, mais la participation a été très faible, 36% à peine. Le pays devait voter hier pour dire si oui ou non il souhaitait s'appeler la Macédoine du Nord afin de se différencier de la région grecque voisine et surtout s'il souhaitait intégrer ainsi l'Union européenne. La suite du processus reste incertain. Le Parlement doit encore approuver ce changement de nom. Or, les nationalistes opposés à cette modification pourraient bloquer un vote favorable. C'est l'information économique de la nuit. Après des semaines de discussions et de tensions, le Canada et les États-Unis ont finalement réussi à s'entendre pour renégocier les termes de l'ALENA, l'accord de libre-échange auquel Trump voulait mettre fin.
C'est une première. Un centre d'accueil spécialement dédié aux femmes toxicomanes vient d'ouvrir à Paris, boulevard de Magenta.
Oui, le centre femmes a ouvert en juillet. Il sera inauguré en novembre. Un lieu où ces femmes, souvent sans domicile fixe, quasiment toujours prostituées, peuvent venir s'abriter le temps d'une douche, d'un soin, d'une aide ou d'une orientation sociale. Le reportage de Sylvie Charbonnier de France Bleu Paris.
Est-ce que je peux avoir le nécessaire pour me laver ?
Ouais.
Merci.
Elle s'appelle Pascaline, elle vient d'arriver au centre femme, son duvet sous le bras, ses quelques affaires dans un gros sac plastique.
Moi, ce qu'il me faudrait, je n'ai pas de dessous.
On ne fournit pas de vêtements ici.
Une culotte.
Non, non.
Une culotte.
Tu prends toutes ces affaires-là pour la douche ?
Comme la plupart des femmes qui viennent ici, elle est malade, la drogue, les problèmes psy et la prostitution aussi.
C'est quelqu'un qui est en errance depuis plusieurs années.
Bénédicte Bertin est coordinatrice du centre femmes.
Qui a une consommation de crack et bien entendu une pathologie psy qui vient en plus se rajouter à toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer.
Et ce lieu justement vient d'être ouvert pour venir en aide à ces femmes, une douche, une écoute, des soins médicaux et même des soins esthétiques.
Je suis socio-esthéticienne, je ne travaille que dans des structures médico-sociales et à l'hôpital.
Sylvie, elle a pour redonner un peu d'estime de soi à ces femmes en déshérence.
Farida, on y va ?
Là, je vais faire la teinture.
Ça fait plaisir, ça, Farida ?
Oui, ça fait plaisir, ça me change un peu.
C'est aussi, la socio-esthétique, c'est une véritable passerelle vers le soin de santé. Donc moi, je peux orienter à l'équipe éducative.
Alors ici, pas de grands moyens, mais comme me l'a dit Sarah, une petite jeune fille de 21 ans dans la rue depuis ses 17 ans.
Ils m'aident comme ils peuvent, mais ils m'apportent beaucoup.
Le reportage de Sylvie et Charbonnier. Puis pour terminer, cette légère baisse des dons aux associations en France l'an dernier, la part des Français qui donnent est en léger recul de 56 à 58%. Les dons restent stables en général, les dons en moyenne de 50 euros.
C'était le journal de Sébastien Legénie.